Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public à l'Opéra de Lorraine à Nancy pour un masque dont je rappelle qu'il est obligatoire depuis 65 ans, enregistré donc dans ce bel opéra où vient de se clore le 42e livre sur la place. Il est consacré ce soir, je parle du masque, à l'actualité du cinéma avec la chère Sophie Avon de Sud-Ouest, avec Xavier Le Harper de 7e Obsession, mais également de Une Heure en Série, l'émission, j'espère, que vous suivez sur notre chaîne le samedi soir à la même heure que Le Masque à 20h, avec Pierrot, Pierre Murat de Télérama.fr et avec Eric Neuhoff du Figaro pour parler de La Daronne de Antoinette dans les Cévennes, Les choses qu'on dit, Adolescente, Le bonheur des uns, et de la ressortie en salle de Total Recall, le film d'anticipation vieux de 30 ans signé Paul Verhoeven. Dans le courrier de la semaine, Sophie va être, je crois, assez heureuse. Caroline Jachan n'a pas aimé effacer l'historique de Delépine et Kervern que Le Masque a défendu, à l'exception de Sophie Avon. Cher démasqué et emplumé, j'ai vu effacer l'historique, nous dit donc Caroline. J'ai trouvé ça nul et je me suis beaucoup ennuyé. Les situations se répètent et je me demande si le film n'aurait pas été mieux avec un seul personnage principal. Cela dit, je souhaite un bon retour à Sophie Avon, dont la voix chaleureuse et l'intelligence m'ont manqué pendant le confinement, puisque Sophie, c'est vrai, était portée pâle pendant ce confinement. Même avis de Marc Junot de Lyon. Effacer l'historique est un film abusivement soutenu par le camp du bien. Ce n'est pas du cinéma, juste quelques sketchs Groland depuis la même ville de Lyon. Jérôme Duvivier n'est pas plus tendre. Effacer l'historique fait apparaître une lente déchéance depuis les sympathiques Louise Michel et Mammouth pour aboutir à un film à la mise en scène atone, poussif dans ses gags, plein de bons sentiments et dont l'image aussi entre le banal et le franchement laid. Quand ils sont méchants, ils sont vraiment méchants, les auditeurs. Comment pouvez-vous comparer cette chose médiocre au cinéma fécond d'un styliste tel que Tati? Karine remercie Sophie Avon d'avoir eu l'audace de critiquer seul et effacer l'historique au masque, le film branché du moment. Je l'ai trouvé fourre-tout, too much, et entre soi. Sinon, merci d'être là et merci pour votre belle humeur. Pour Monsieur Battier, tout le monde comprend qu'il faille soutenir le cinéma français, mais le traitement dont vous avez fait bénéficier effacer l'historique me semble bien complaisant. C'est un film moche et ennuyeux où Denis Podalydès de la Comédie Française est fourvoyé. Étienne Dubois-Valmier, sidéré par le flot de nos dithyrambes, dit que ce n'est pas du cinéma, mais une succession de scénettes avec une image laide et poisseuse. Bon, pour Jean-Jacques Coriot d'Aix-en-Provence, oser faire référence à Corismaki et Tati à propos de ce film, c'est comme faire référence à du foie gras du Périgord en parlant d'une pâtée pour chien Royal Canin. Et tout le courrier dans cette tonalité. Je cherche désespérément des gens qui l'ont aimé chez nos auditeurs. À part ça, pour aller vite, Bruno Mauvais tient à remercier Charlotte Lipinska et Pierre Murat, qui, contrairement à leurs collègues Xavier Le Harper et Eric Neuhoff, ont compris la haine et toute sa portée. Ah. Voilà, d'accord, le film a des défauts, mais de là à dire que c'est un film bourgeois, tape à l'œil et arrogant, non. Et dire de Kassovitz qu'il n'a rien fait de bien après, comme l'a affirmé Neuhoff, c'est nier les qualités d'un film comme l'ordre et la morale. Et on termine avec un courrier très important pour Xavier. Il est signé Pauline Chipois. Elle habite le Québec. Et elle veut absolument prévenir Xavier Le Harper que le nouveau film de Bob l'Éponge, dont il s'attristait à l'antenne de la non-sortie en France, est actuellement au cinéma à Montréal. Il n'est qu'à 6 heures de vol et une quatorzaine du bonheur. Il faut rappeler effectivement qu'il était programmé en juillet. Ne prends pas cet air triste, c'est pas gravissime non plus. Et qu'il ne sortira, Bob l'Éponge, en eau trouble, hein, attention, que sur Netflix d'ici quelques mois.
Donc. Oui, voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu consolé. On pourra quand même voir ce nouveau Bob l'Éponge.
Mais tu peux aller à l'invitation de Pauline Chipois.
Mais avec grand plaisir, cher Pauline, je suis ravi. J'aime beaucoup Montréal, j'aime beaucoup le sirop d'érable. Je prends toujours quelques kilos de trop, mais c'est très agréable quand je vais là-bas. Donc oui, je vais y aller, cumuler les plaisirs.
Et on commence avec La Daronne, à propos de plaisir, de Jean-Paul Salomé, tiré du polar d'Anne-Laure Kerr, qui est une ex-avocate pénaliste au barreau de Paris, et qui co-signe le scénario. Et c'est avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Houchani, Liliane Rovert et Isabelle Huppert, c'est Patience Portefeu, alias bientôt la Daronne, une interprète franco-arabe d'écoute téléphonique qui bosse pour la Brigade des Stupes. Et après avoir découvert lors d'une enquête qu'un trafiquant était le fils de l'infirmière marocaine chargée de veiller dans un EHPAD sur sa mère, qui est jouée d'ailleurs par une comédienne que j'adore, dont on ne parle jamais, qui est Liliane Rovert, elle entre à son tour dans la partie en lunettes noires, il faut dire, sous une tenue de camouflage berbère, et le pseudo de Madame Ben Barka. Elle va détourner, on parle bien d'Isabelle Huppert, elle va détourner des montagnes de cannabis et se retrouver à la tête d'un réseau mafieux de Belleville. Le flic, c'est Hippolyte Girardot. Par ailleurs, son amant, il comprend rien à l'histoire. Bref, une comédie aux accents de polar dans laquelle, je crois, c'est une des rares fois, oui, Isabelle Huppert fait son apparition. En général, elle aime les films plus dramatiques. Pierre?
C'est pas très bon, mais pour une simple raison, c'est que c'est un film qui est, ça rappelle un peu ce qu'on faisait à Hollywood dans le temps, c'est-à-dire qu'on faisait des films pour une actrice, pour Bette Davis ou pour Greta Garbo. Donc elle faisait absolument ce qu'elle voulait dans l'histoire. Et là, c'est un peu le cas, c'est-à-dire que Isabelle Huppert, sans elle, le film n'existerait évidemment pas. Et donc, comme sans elle, le film n'existerait pas, elle fait tout pour qu'il existe avec elle, c'est-à-dire qu'elle a dû se dire « Ah ben, ça fait longtemps que j'avais pas parlé une langue étrangère comme Marion Cotillard. Marion Cotillard, elle a appris le polonais. »
Alors là, elle l'a appris phonétiquement, il paraît.
Voilà, ben, très bien. L'arabe. Bravo. C'est une très grande actrice, Isabelle Huppert. Donc, Marion Cotillard a appris à parler polonais, elle a appris l'accent québécois. Moi aussi, tiens, je vais parler l'arabe. Alors, ah ben, d'accord, Isabelle, tu vas parler arabe, très bien. Ah ben, et si je tournais, ça fait longtemps que j'avais pas tourné à Barbès chez Tati. Tati, je connais pas bien. Ben, Isabelle, évidemment, tu vas aller à Tati. Et donc, voilà, les autres n'existent pas. C'est-à-dire que, bon, il y a Isabelle Huppert qui parle arabe, qui se déguise, qui met des lunettes noires, qui fait une... Et puis, il y a Hippolyte Girardot qui est con comme la lune, le pauvre chat, parce que...
Ah oui, il
mais non, parce
rien,
que son
rien.
Personnage n'existe pas, etc. Autour d'elle, il y a les deux petits dealers qui n'existent pas. C'est un film qui, en fait, n'existe pas. Alors, si vous êtes fan d'Isabelle Huppert, vous êtes content parce qu'elle est là de la première à la 85e minute et après, et c'est une très grande comédienne, donc si on aime ça, ben c'est très bien. Si vous attendez du cinéma... autre chose qu'un véhicule, comme on disait, pour Bette Davis, Greta Garbo et maintenant pour Isabelle Huppert, vous risquez de la trouver un petit peu mauvaise.
Sophie.
Ben, je suis pas du tout d'accord avec toi, Pierre, parce que je trouve que le film se tient beaucoup mieux que ça. Et même si le projet est pour Isabelle Huppert, en effet, eh bien, tant mieux. Elle n'est pas la seule à exister dans le film. Pas pour moi, pas à mes yeux du tout. Et je trouve que ce qui est très, justement, plaisant dans ce film, qui est une jolie comédie sans plus, hein, je suis pas en train de dire que c'est un chef-d'œuvre, mais qui est une jolie comédie, ce qui est très, très plaisant, c'est la place donnée aux femmes, justement, à toutes les femmes. C'est-à-dire qu'elle est loin d'être seule. Elle a un duo, notamment avec une certaine Madame Faux, qui d'ailleurs est interprétée par Jade Nadja Nguyen. Et avec elle, elles forment toutes les deux un duo de femmes qui, sous une vitrine très lisse de ménagères parfaites, se livrent à des trafics dans l'immeuble qui sont un peu plus illégaux. Et tout ce qui se passe entre elles, qui n'est pas d'ailleurs de l'ordre du dialogue, il y a un dialogue comme ça apparent, et puis en même temps, ce dialogue est plein de sous-entendus, parce qu'elles savent très bien l'une et l'autre ce qu'elles font dans cet immeuble. Et moi, je trouve ça hilarant, et je trouve que la...
Hilarant ?
Ah, je trouve ça très drôle, je trouve que c'est très plaisant.
C'est peu excessif, hilarant.
Hilarant, peut-être pas, mais vraiment, c'est quelque chose qui...
Parce que les gens vont te croire.
Mais j'espère bien qu'ils vont me croire, mais tu vas voir que peut-être comme
il fait une story, ils ont le droit d'utiliser
le hilarant. Je veux bien croire que ce soit plaisant, plus qu'hilarant, mais c'est très 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 plaisant. Et surtout, elles ne sont pas toutes les deux seules. Il y a aussi l'infirmière, il y a aussi la mère, évidemment, dont tu as parlé, Liliane Rovert, qui est formidable. Et toutes ces femmes, moi, ce que j'aime dans le film, c'est que toutes ces femmes, elles se battent, elles ne se plaignent jamais, elles se débrouillent dans un monde d'hommes où finalement elles se débrouillent mieux que les hommes, et elles consolent et elles réparent. Et c'est un film de femmes. Excuse-moi, mais moi, j'ai trouvé ça réjouissant.
Eric.
Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais d'un autre côté, si on pouvait être déçu par Jean-Paul Salomé, ça se saurait. Hein, ce qui manque à ce film, c'est un frigo. Parce que quand on voit des choses comme ça à la télévision, on se lève au bout d'un quart d'heure, on va dans la cuisine, on prend une bière, on vient s'asseoir sur le canapé, on s'aperçoit qu'il ne s'est rien passé de neuf, on se relève, on a envie d'une glace. Le temps qu'elle fonde, il s'est toujours rien passé.
Non, mais là, c'est pas le cas. Tu peux pas dire ça. Il se passe plein de choses.
Isabelle Huppert joue une fille qui est traductrice, entourée de demeurés dans ce commissariat. Parce qu'elle écoute les conversations des truands, et ils lui disent, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les types sont en train de dire, bon, là, la cargaison de shit va arriver. Elle leur répond, oh, ils ont du mal à garer leur camionnette. Ah oui, c'est vrai.
Mais ça se passe comme ça, hein.
Le mystère de ce film, c'est que Isabelle Huppert, qui est toujours jalouse d'Isabelle Adjani, s'est dit, Adjani s'est déguisée en berbère dans Le Monde est à toi, eh ben, je vais faire la même chose pour l'enquiquiner. Elle met ses lunettes, elle met sa burqa, et
elle dit... Je crois pas qu'elle soit aussi mesquine, non, vraiment.
Non, mais je ne vois pas du tout l'intérêt de ce film. Puisque ça parle de drogue dans le commissariat, on voit une affiche de trafic de Soderbergh, on entend la fille dire à sa mère, comment est-ce qu'on dit un gros doigt dans le fion en arabe? Si ça, ça vous fait rire, moi je veux bien. Et dans le film, Huppert s'appelle Patience parce qu'elle est née à 10 mois. Ah ah ah, mais de la patience, il en faut pour regarder ce truc-là jusqu'au bout.
Xavier, tout ça pour en arriver à cette pauvre conclusion. Moi, je suis du côté de Sophie. Alors, le film n'est pas sans défaut, nous sommes bien d'accord, il y a un problème de rythme, il y a un problème de mise en scène, il y a un moment où effectivement tout le monde se fout de l'intrigue policière. Donc les personnages, le réalisateur et un peu le spectateur, évidemment, par effet, j'allais dire, de conséquences. Mais... moi, je trouve que d'abord, il se passe quelque chose avec Isabelle Huppert, qui est vraiment très drôle, et même parfois hilarante. Je suis désolé, je vais employer le même épithète que ma petite camarade, parce qu'il est assez juste. Elle ose des choses. On a l'impression qu'elle n'a plus rien à prouver, mais qu'elle a encore envie de se lancer des défis, et que celui-ci en est un. C'est très clair. Je suis d'accord avec Sophie. C'est un film où les femmes ont un vrai rôle. Alors, au détriment des hommes, ce qui effectivement appauvrit un tout petit peu peut-être l'effet comique ou l'effet sociétal. Mais en tout cas, c'est indéniable. Il y a Liliane Rovert qui est géniale et que les spectateurs connaissent enfin, puisqu'elle connaît une heure de gloire tardive mais méritée avec la série
qui a beaucoup joué au théâtre.
Beaucoup joué au cinéma avec Christine Pascal, avec des gens extraordinaires. J'aime beaucoup la manière dont les langues aussi sont motrices dans ce film-là. Il y a le français, il y a l'arabe, il y a le yiddish justement aussi de Liliane Rovert, comme si chacune avait besoin de son territoire, de cette langue, cette sonorité. Il y a effectivement la chinoise dans l'immeuble qui a réussi à acheter tout l'immeuble sauf l'appartement de patient. Je trouve que vraiment il y a une topographie géographique et sociétale de Paris aujourd'hui, avec ses différents territoires, avec ses différentes communautés, qui est vraiment reconstituée. Oui, on voit Barbès, oui, on voit le 13e, oui, on voit des quartiers qu'on ne voit pas souvent au cinéma. Alors effectivement... Pas tant que ça. Et alors, effectivement, l'intrigue policière, il y a un moment où elle se délite, mais jamais la causticité est un tout petit peu ironique, un tout petit peu mélancolique même.
Oui, il y a une ligne mélancolique.
Indéniablement dans le film. Bien sûr. C'est bien. Qui est là derrière l'humour. Et honnêtement, on voit énormément de mauvaises comédies françaises. On en aura peut-être une d'ailleurs tout à l'heure, ou deux. Bah, celle-là ne mérite pas.
Celle-là, c'est la Daronne.
Je n'avais pas fini, mais je t'ai pris.
Si, on a fini. La Daronne de Jean-Paul Salomé. Eh bien, comédie Antoinette dans les Cévennes. Voilà le deuxième film de Caroline Vignal, qui n'en avait pas réalisé depuis 20 ans. Voilà au moins une réalisatrice qui sait prendre son temps, contrairement à d'autres. Tout commence dans une école de la région parisienne, où Laure Calamy, qui porte une robe indescriptible que j'adore, alias Antoinette Lapouge, se cache dans une classe pour embrasser passionnément son amant, c'est Vladimir Benjamin Laverne, qui est le père d'un de ses élèves. C'est-à-dire que, en fait, elle est à la fois la maîtresse et la maîtresse. Vladimir avait promis de partir avec elle en vacances et puis lui annonce qu'il préfère faire une randonnée dans les Cévennes avec sa femme, Olivia Côte, et leur fils. Qu'à cela ne tienne, Antoinette décide de poursuivre l'infidèle sur le fameux chemin de Stevenson, du nom de l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, qui, pour oublier une belle américaine, avait parcouru en 1878 200 km en compagnie de l'ânesse Modestine, entre le Monastier sur Gazeille et Saint-Jean-du-Gard. Antoinette, elle loue elle aussi un âne, très récalcitrant, prénommé Patrick, ce qui fait que quand elle l'alpague, on a l'impression que c'est une groupie de bruelles. Évidemment, quand elle va retrouver Vladimir, je vous dis pas la tête qu'il va faire. Bref, l'âne est parfait. D'ailleurs, il y a deux ânes. J'ai appris dans le dossier de presse qu'il y a deux ânes qui ont joué le même âne. Et c'est un film d'1h35 qui est pour moi une sorte de western de Cévenol absolument réjouissant. Voilà un film réjouissant. Sophie.
Eh bien, je suis d'accord avec toi, c'est un film réjouissant. D'abord, c'est une idée géniale d'avoir utilisé Stevenson comme elle l'utilise, de s'en être servi, même si on est loin d'une adaptation. Il y a quand même toute l'excentricité du roman qui, me semble-t-il, perce dans le film. Et puis, alors, cette vieille idée du, c'est pas la destination qui compte, mais c'est le cheminement. On est tous convaincus, parce que c'est très à la mode, que c'est en marchant qu'on réfléchit, qu'on se recentre, qu'on dépose son fardeau, etc. Lacan disait, on pense avec ses pieds. Eh bien, c'est une illustration un petit peu de ça. Moi, j'ai eu le sentiment de voir finalement une psychanalyse à ciel ouvert, c'est-à-dire que finalement...
Lacan, je te rappelle que sa revue...
s'appelait Lannes, évidemment, c'est merveilleux. Et le transfert, on a le sentiment d'assister à une psychanalyse à ciel ouvert avec un âne à la place du psychanalyste, ce qui quand même est assez rigolo, et avec un vrai transfert, puisque ce merveilleux personnage d'Antoinette qui court après cet homme, et bien fait un transfert de son amour sur cet âne. Donc déjà ça, je trouve que c'est culotté, et que c'est... Et alors en plus... Ça pourrait être répétitif, ça pourrait être monotone. La marche est quand même pas quelque chose de très spectaculaire. Et je trouve que grâce, évidemment, à l'interprétation de Laure Calamy, qui est une actrice absolument merveilleuse, qui est à la fois irruptive et puis et extrêmement subtile, ça devient quelque chose d'extraordinairement vivant. Parce que c'est comme si elle s'autoproclamait héroïne de cette épopée intime. D'ailleurs, dès le début, la scène de classe dont tu parles, mais après, quand elle mange avec les randonneurs, devant Marie Rivière, qui lui pose des questions sur les raisons pour lesquelles elle est là, elle pourrait ne rien dire, mais évidemment,
elle tombe dans le piège qui fait qu'elle est considérée comme...
Mais c'est génial, parce qu'elle est à la limite
de la... Une femme qui court derrière
son
amant.
Et elle n'a pas honte. Enfin, je veux dire, elle pourrait se sentir un peu pitoyable de courir après son amant. Pas du tout, elle n'a pas honte. Et de fait, elle devient l'héroïne de cette épopée. Vraiment, je trouve que c'est un très, très joli film.
Dans des paysages magnifiques, Xavier.
Il ne faudrait quand même pas que ça dure un kilomètre de plus. Hein, parce que ceux qu'on parcourt, on les sent. Ah bah, je suis désolé, d'abord j'étais interrompu alors que j'étais en train de défendre la
terre. T'aimes pas les ânes, en fait.
Non, mais je m'aperçois en vous écoutant, et c'est l'intérêt de cette émission, hein, et de vos interventions, c'est que je n'ai pas de peine de cœur à cautériser en allant me promener dans les Cévennes avec un âne. Je ne suis pas Stevenson, je ne suis pas l'héroïne du film. Je suis plutôt heureux en ménage, donc peut-être que c'est ce qui m'a empêché d'être complètement en adhésion avec ce personnage. Je ne vais pas en psychanalyse, donc je ne fais pas de transfert sur les animaux. Je ne fais rien du tout, d'ailleurs, avec les animaux que je n'aime pas beaucoup, comme la campagne. Donc, j'ai trouvé ça quand même...
T'es plus heureux dans le Belleville de la Daronne que les Cévennes
clairement.
d'Antoinette.
Ouais. Moi, j'aime les quartiers comme ça, avec des néons qui bouillonnent jusqu'à pas d'heure.
Oui, mais tu aimes Laure Calamy.
J'aime Laure Calamy, mais on a l'impression qu'elle prend le film. C'est-à-dire qu'elle sent bien que la mise en scène, tu parlais de penser avec les pieds, la mise en scène, elle est quand même un petit peu faite aussi avec les pieds. Surtout qu'elle s'aventure dans le registre du burlesque. Et là, il faut une précision que n'a jamais Caroline Vignal à aucun moment dans le film. Oui, on a l'impression que Laure Calamy, elle s'est dit, oh là là, il faut que l'espace, comme ça, la campagne, que je pousse la voix, que je hurle, que je fasse des grimaces, que je... Tout ça n'est quand même pas toujours très subtil. Sympathique, ça l'est régulièrement. Artificiel en termes de scénario, constamment, parce que quand même un petit peu compliqué, on avait bien compris. Et dès le début, de toute façon, cette scène que tout le monde trouve géniale, parce qu'elle devient malaisante au bout de quelques instants, où elle fait chanter aux enfants la chanson de Véronique Sanson, Toutes les nuits, je m'endors avec lui, et tout ça, et que les parents sont estomaqués. J'imagine mal les parents estomaqués en 2020, parce que des gamins chantent Véronique Sanson.
Mais ils sont pas estomaqués, ils sont étonnés, ils sont surpris.
Non, ils sont estomaqués, ils sont un tout petit peu gênés, on a l'impression que la chanson est érotique, et que non, pas tant que ça. Et le film est toujours en train d'appuyer son trait, quand même, de signaler les choses. Alors l'âne, évidemment, il va bouger quand il ne faut pas bouger, il va stopper quand il ne faut pas stopper, il va emporter la pauvre Laure Calamy derrière lui. Enfin, je trouve quand même que c'est un peu comme un âne, c'est un peu bourrin.
Ça, tu l'as préparé aussi. Hein.
Non, je ne l'ai pas préparé.
C'est venu comme ça.
Eric.
Mais il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est que c'est un remake. C'est le remake de Au hasard Balthazar où Anne Jozemski jouait le rôle d'ailleurs. De Calamy.
On ne touche pas à un chef-d'œuvre pareil.
Mais c'est...
Non, c'est pas la même histoire d'abord.
Non, mais bien sûr que non.
C'est plutôt la fin chez le prisonnier quand même. Tu as le droit d'aimer.
Merci, j'allais le dire.
Mais c'est beaucoup plus drôle que le Bresson. Et le fait est que des ânes, on en voit beaucoup dans les films français. Ils ne sont pas toujours des animaux. Et là, c'est un vrai. Et on est très contents de voir cet animal.
Même s'ils sont deux, encore une fois.
Oui, il a même une doublure, parce qu'il faisait un peu la star, j'imagine, sur le tournage.
Parce qu'il y en a un qui était, paraît-il, plus boudeur et l'autre plus joyeux.
Ce film est tout à fait charmant, joli, sans prétention. C'est la première fois que Laure Calamy a un premier rôle. Elle s'en tire à la perfection, parce qu'elle joue pas la maligne. C'est la bonne grosse fille qui emmerde tout le monde, mais qui s'en tire toujours, et qui croyait être amoureuse d'un gars sans intérêt, et qui découvre qu'elle se suffit très bien à elle-même. Elle apprend la liberté, elle apprend apprend le loisir, elle apprend le plaisir, elle apprend à se foutre carrément de tout, comme disait Stendhal. Et c'est un petit western Cévenol, une dérive qui fait penser au film de Jacques Rosier. Il y a une très très grande liberté. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment épatant, une très bonne surprise. Et ce qu'il y a, c'est que le précédent film de cette Vignale date d'il y a 20 ans.
Je l'avais pas vu celui-là.
Moi non plus, mais j'espère qu'on n'attendra pas le suivant aussi longtemps que ça.
Pierre.
J'ai dit du mal de La Daronne, mais je le regrette rétrospectivement parce que c'est La Daronne, c'est Lubitsch à côté, quoi. C'est...
Oh.
Ah non, je t'assure que. Alors, c'est moi, d'accord. C'est vrai que je suis plutôt bitume, citadin.
Toi aussi.
D'accord. Mais
qu'est-ce que vous avez à être allergique comme ça à la verdure et à la nature.
Non, je suis allergique aux mauvais films, surtout. C'est ça le problème. C'est...
Oh, non, c'est... Pierre.
Non, vraiment. Je vous assure que...
Non.
La nana qui parle avec son âne pendant une demi-heure...
C'est pas vrai.
Et le dialogue avec son âne, et je sais pas... Mais c'est épouvantable. C'est d'un ennui, il ne se passe rien.
Est-ce que tu avais lu le Stevenson? Il avait une relation avec son ânesse?
Non, je suis inculte, je n'ai pas lu ça. Mais j'ai vu le film, et ça me suffit. Je trouve que c'est vraiment... Mais j'ai passé mon temps à me dire... Mais comment on peut produire encore ça? Je suis navré pour Caroline Vignal et Laure Calami, qui sont certainement des gens très très bien. J'ai rien contre elles. Et là, elle est magnifique. Peut-être que vous serez fasciné et que vous adorerez ça. C'est possible. Et auquel cas, c'est moi qui aurais tort. Mais je peux vous dire que j'ai rarement souffert.
C'est du mensonge, Pierre, ça. C'est du mensonge.
Parce qu'il ne s'y passe rien. Voilà, c'est tout.
C'est plein d'inattendus.
Il y a un sentier. Il se passe plein de choses.
Pour toi, c'est Ian le terrible.
Désolé.
Antoinette dans les Cévennes, en tout cas, Sophie, Eric et moi, on vous conseille d'aller voir ce deuxième film de Caroline Vignal. Et franchement, c'est court, c'est 1h30. Et vous allez.
Oh, c'est long.
Ah, on les subit. Hein.
Bon, avoir du plaisir. 2 ans après Mademoiselle de Jonquière, d'après Diderot. Quel film quand même avec lequel je me suis réconcilié avec Emmanuel Mouret, avec qui j'étais un peu en bisbille. Voilà. Là, il signe les choses qu'on dit, les choses qu'on fait avec Camélia Jordana, Nils Schneider, Vincent Macaigne. Est-ce qu'il y a un film français sans Vincent Macaigne actuellement? Non. Émilie Dequesne, Louis Daud de Langsin, Daphné. C'est donc Camélia Jordana qui est enceinte de 3 mois et de son compagnon, donc c'est François, c'est Vincent Macaigne, qui est le mari de Louise, Émilie Dequesne. François donc part travailler, il est seul dans sa maison du Vaucluse où débarque son cousin Maxime, c'est Nils Schneider, un écrivain, enfin disons un aspirant écrivain qui sort d'une histoire d'amour compliquée et qu'elle n'a jamais rencontré. Pendant 4 jours, ils vont faire connaissance en se racontant leurs histoires d'amour respectives avec beaucoup de flashbacks. Et de la voix off, l'amour, donc toujours l'amour. Ça dure 2 heures et une poignée de minutes. J'ai trouvé que c'était presque le parangon du film français. On a le sentiment qu'aucun étranger ne pourrait en faire aujourd'hui, et pour sa forme, et pour ses dialogues, et pour son écriture. Eric ?
Ah oui, qu'est-ce que c'est bien. C'est le cinéma de la délicatesse et de la légèreté. C'est aussi intelligent que les contes Moreau de Romer, c'est drôle comme le De Broca des débuts, c'est enlevé comme Michel Deville dans sa bonne période, c'est une marqueterie de dialogue et de scène, et puis c'est un film à la fois très littéraire et très musical, et pas seulement parce qu'on entend sans cesse Chopin ou Eric Satie, ça prouve que la parole, c'est l'action. Toutes ces histoires qui se maraboutisent bout de ficellise, c'est tellement riche que je vais retourner le voir parce que il y a du romanesque comme s'il en pleuvait là-dedans. C'est vraiment des histoires d'amour. Et à un moment donné, quelqu'un dit les histoires d'amour, j'adore ça. Et ben, à l'image, on a exactement la définition de cette formule. Et Mouret, qui ne joue pas dedans, là, parce qu'il était devenu un petit peu gênant dans certains de ses films, là, il trouve des acteurs qui sont parfaits. Vincent Macaigne n'a jamais été aussi bon, discret, avec une fêlure. Et il s'est filmé aussi les maisons, les appartements, comme un Pascal Thomas, ça c'est très réussi. Et le film est plein à craquer, comme une semaine qui contiendrait 7 dimanches.
Même enthousiasme, Xavier ?
Mais t'as vraiment aimé, je me suis dit pendant toute ton intervention, Eric, il va finir par nous dire non mais n'y allez pas, c'est de merde. Il y avait une espèce d'ironie sous-jacente,
pas
non,
du tout, non.
Pas du tout, bah d'accord, non. Bah alors nous sommes d'accord.
Tu as connu Eric Neuf, ironique,
jamais. Mais c'est pour ça, oui, j'attendais le moment où il y aurait un petit revers de bâton, mais eh ben oui, moi je suis très enthousiaste sur le film d'Emmanuel.
Alors reste le
aussi. Donc c'est à ça que je voulais aboutir, vous êtes donc d'accord.
Nous sommes Xavier et d'accord, absolument. Voilà. Peut-être pas tout à fait pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je trouve que là, il y a une ambition nouvelle et un peu supplémentaire et très complémentaire du travail d'Emmanuel Mouret jusqu'à présent. Puisqu'on a quand même une double temporalité. Tu l'as dit, il y a le présent. C'est-à-dire cette rencontre inopinée. Vincent Macaigne n'a pas pu venir. Donc, Nils Schneider et Camilla Jordana se retrouvent. Ils ne se connaissent pas. Elle lui propose d'habiter là quelque temps. Et puis, ils vont raconter leur histoire. Donc, il y a la temporalité du passé. Et les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, qui est le titre du film et qui pourrait être un peu moralisateur. C'est-à-dire entre ce qu'on fait et ce qu'on dit, il y a évidemment toujours une béance, c'est aussi une manière d'illustrer le film, c'est-à-dire que les récits au présent sont effectivement dans le concret, dans l'objectivité du présent, et puis les récits au passé, on voit bien qu'entre ce qui est raconté et ce qui est filmé, il y a un léger décalage, comme si la mémoire, comme si on avait rectifié un tout petit peu les choses, comme si on s'était donné un autre rôle, pas très différent, mais un tout petit peu modifié par rapport à ce qui s'est réellement passé, qui crée un décalage extrêmement intéressant. Si tout le film était au premier degré, était dans le récit d'illustration, ce ne serait pas intéressant, mais ce décalage entre ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé avant et qu'on a revisité, qu'on a reconsidéré avec des choses qu'on n'a pas nécessairement vues comme des mains qui se touchent comme ça dans le secret des amours adultères qui sont en train de naître, je trouve que ça donne du romanesque effectivement constamment à l'écran. Il y a même des quiproquos, il y a même des mensonges, des suspens, des mensonges involontaires d'ailleurs, et je trouve que le film dans son principe de récit dans le récit est d'une grande richesse, d'une grande complémentarité. Ça débouche vraiment sur quelque
c'est
chose
qui est très écrit, très je trouve, très, oui, dans le bon sens du terme, très écrit,
mais vraiment pour une fois cette structure, c'est ce que j'ai essayé de dire, mais je n'y suis peut-être pas arrivé, donne lieu aussi à une possibilité de mise en scène qu'Emmanuel Mouret vraiment empoigne complètement. Alors oui, ça reste un cinéaste parisien du 6e arrondissement, mais en même temps, je trouve que là, il y a une fraîcheur, une intelligence. Tu as juste oublié Guillaume Gouix dans la
production,
qui est formidable, qui apporte une espèce de carnation, une incarnation supplémentaire. Non, très beau film, très grand film.
Sophie.
Oui, la fresque et l'enchâssement comme ça des intrigues lui donne une ampleur qu'on ne lui connaissait peut-être pas, Emmanuel Mouret, mais c'est aussi il aurait pu se casser les dents d'ailleurs hein, sur le genre, mais c'est ce genre de la fresque, voilà, lui va très bien. Vous avez Eric notamment a cité Romère. On pense quand même beaucoup à Woody Allen. D'ailleurs, il y a une citation de Woody Allen de Annie Hall qui est très explicite. Hein,
et un hommage. Un clin d'œil à ce plaisir qu'on dit charnel aussi.
Et puis il y a un hommage à Annie Hall à travers. Un personnage, c'est vraiment un film qui, en dépit de tous ces modèles auxquels il rend hommage, qui reste un pur Mouret. Alors effectivement, la fresque lui donne une ampleur supplémentaire, mais même avec des formes plus modestes qu'il avait au début, je mets un peu à part Mademoiselle de Jonquière, mais même avec les films précédents, moi je retrouve l'univers de Mouret que j'aime, le cinéma de Mouret que j'aime, c'est-à-dire que même si c'est des situations un peu extravagantes, même s'il use des artifices, parce qu'il adore les artifices, même si lui-même se défend de vouloir mimer la vie, on se retrouve face à un réservoir d'humanité et d'émotion qui est absolument exceptionnel. Et ça, c'est dû au personnage, qu'il a des personnages d'une complexité vraiment formidable.
Pierrot.
Bon, je vais être odieux ce soir. Non, non. Il y a un personnage qui est vraiment formidable. Là, vous avez raison. C'est le personnage interprété par Émilie de Caen.
Bien sûr, qui est souterrain en plus. Ouais.
Mais vraiment formidable parce que lui a tout ce que vous dites. C'est-à-dire ce double jeu, ce secret. On croit qu'elle fait des choses. Elle en dit d'autres. Ça, et elle justifie parfaitement le titre.
N'en dis pas trop, réserve la surprise.
Je n'en dis pas plus que ça. Sinon que c'est une excellente comédienne. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais qu'elle ajoute quelque chose que les autres, pour moi, non pas. Moi, j'ai deux problèmes avec Emmanuel Mouret, pas tellement avec ce film, parce que je suis d'accord avec vous, c'est sans doute ce qu'il a fait de mieux. Mais j'ai deux problèmes avec lui, c'est que le dialogue littéraire que vous dites, quand c'était Éric Romère, qu'on pouvait détester les dialogues de Manuit chez Maud ou de Pauline à la plage, par exemple, parce qu'ils n'étaient pas forcément naturels, mais ils coulaient de source. Là, je trouve que c'est très littéraire, mais pardon Jérôme, pour moi, au mauvais sens du terme. Et quand ce n'est pas banal, parce que j'ai retrouvé un truc que un des personnages dit, l'amour donne du plaisir, mais le plaisir ne donne pas forcément de l'amour. Bon, oui, bon. Et le deuxième problème pour moi, c'est la mise en scène de Mouret. C'est-à-dire que c'est bien, c'est toujours bien, c'est tendre, c'est tout ce que vous voulez, mais je ne me souviens jamais d'une scène, par exemple, à la fin, il y a une scène dans une gare, c'est romanesque et tout, on pourrait penser à Jacques Demy, on pleure, on aimerait pleurer, c'est deux êtres qui vont peut-être ou pas, etc. Et non, je trouve qu'il n'a pas Ce n'est pas un grand metteur en scène, c'est-à-dire qu'il nous emporte vers une mise en scène qui fait que tous ces personnages brusquement nous embrasent et on se souvient d'eux.
Moi, je trouve que c'est étourdissant, au contraire. Je suis mais vraiment complètement opposée à ce que tu viens de dire. Sa mise en scène est étourdissante.
Non.
Mais eh ben, écoute, je peux citer plan par plan des choses que je trouve magnifiques et que je retiens pour le coup. Donc, tu vois, c'est vraiment une question d'appréciation personnelle.
Non, c'est bien sûr,
vraiment, je trouve que c'est un grand metteur en scène.
Elle souligne joliment, elle accompagne les personnages, elle ne les enclave pas.
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et c'est signé Emmanuel Mouret. On sera peut-être plus rapide pour évoquer Le bonheur des uns de l'acteur et réalisateur Daniel Cohen, qu'il a tiré de sa propre pièce, soit deux couples, la discrète Léa, c'est Bérénice Bejo, et le très macho Marc, c'est Vincent Cassel, l'envieuse Karine, c'est Florence Foresti, et le débonnaire Francis, c'est François Damiens, qui à mon avis est le seul à s'en tirer un peu. Dans ce film, deux couples dont l'amitié va voler en éclats avec le succès de Léa, dont le roman devenu best-seller. Il faut donc imaginer que Bérénice Bejo est devenue romancière et qu'elle vend 250 000 exemplaires de son livre. Donc elle suscite évidemment la jalousie et autres mauvais sentiments. Voilà, vous savez tout du film, c'est-à-dire ça tient dans ce résumé. Non mais je sais rien, il n'y a pas tellement plus que ça. Voilà, donc Le bonheur des uns, je ne suis pas sûr que ça fasse votre bonheur à vous, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, Sophie.
Je trouve que c'est cruel de l'avoir programmé ce soir parce que il y avait quand même. Enfin, on est vraiment là, on dégringole complètement, quoi. Enfin, comment dire. C'est
mais attends,
un film...
attends, après on va parler, j'espère, pour moi, du grand film de la semaine.
Je suis
semaine,
d'accord,
hein.
Bien sûr. Non, enfin, comment dire, c'est un film absolument épouvantable. il ajoute à l'ineptie de la situation, la médiocrité des personnages, la mesquinerie des personnages. Florence Foresti est absolument odieuse et insupportable dans ce film. À la limite, l'ineptie de la situation, on pourrait se dire bon, allez, il veut absolument illustrer cet axiome que d'ailleurs il a beau être voltairien, je trouve immonde, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Bon, mettons qu'il veuille illustrer ça, mais c'est une tellement pauvre illustration, tout le monde n'est pas à Nequeux ou je ne sais qui, enfin, c'est jamais drôle. La scène d'ouverture où il y a ce repas où elle est censée, elle, hésiter sur son dessert, Bérénice Bejo, donc, qui écrit un best-seller en deux temps, trois mouvements à l'heure du déjeuner et qui se retrouve à la tête de 300 000 exemplaires, quelle chance elle a. Cette scène de déjeuner qui ouvre le film, et elle est d'un ennui profond, quoi. Juste pour montrer quoi? Pour montrer des personnages qui ne sont ni... Alors là, on revient à ce qu'on disait à propos de Mouret, etc. Il n'y a pas de personnages dans ce film. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de personnages. Ils sont nuls.
Ni personnages, ni histoire.
Non, mais ni l'histoire, évidemment. Mais enfin, elle découle des personnages, ou en tout cas, la situation est inepte. Non, bref, le film est vraiment...
Xavier,
on va faire vite. Moi, j'avais une petite curiosité pour le point de départ. Effectivement, le succès de l'une fait la jalousie des trois autres. Ça aurait pu donner une comédie cynique, méchante, mordante, moraliste, pourquoi pas. Enfin, je veux dire. Et le problème, c'est que tu l'as très bien résumé, c'est que tous les personnages sont définis par un adjectif. Et qu'ils n'en sortiront pas, alors qu'on est quand même sur 2, 3, 4 ans, puisqu'elle va écrire un deuxième livre aussi couronné de succès. Et donc, effectivement, Florence Foresti, elle est jalouse, méchante, tout le temps. Tout le temps, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Vincent Cassel est indifférent au succès de sa femme, mais il n'y croit pas. Donc, on voit dans la scène du début qui résume le film, c'est-à-dire que la pauvre Bérénice Bejo veut prendre un dessert, puis les autres en veulent pas, puis finalement, elle en veut pas. Donc, on lui dit, on va prendre un dessert, mais tu n'as jamais su choisir, ma chérie, lui dit-il, de façon très humiliante, on a envie déjà de le baffer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment d'attention, d'amour, d'affection de la part du réalisateur pour ses personnages. Pourquoi est-ce qu'on en aurait? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle ne sait pas choisir entre la tarte tatin et l'île flottante, et finalement elle prend rien, même pas un café. Bonjour la construction du personnage. Foresti, elle est méchante, mais je comprends même pas qu'elle soit amie dans la vie. Il y a même une scène où elle humilie son mari, le pauvre François Damiens, tu as raison, qui s'en sort un tout petit peu. Elle arrive, elle est en train d'écrire le livre du siècle.
Non, elle essaye.
Elle essaye. Et elle lit les quatre premières lignes de L'étranger de Camus. Et il la reconnaît, alors qu'il passe pour un benet. Il dit, ben oui, j'ai reconnu, c'est L'étranger. Enfin, même entre eux, ils ne s'aiment pas, les personnages. Donc, devant tant de méchanceté gratuite de la part du réalisateur, de cynisme et de désillusion, il y a ton film, bonhomme, mais sans nous, quoi.
Il n'y a même pas un âne, Pierre.
Oh, ben si, il y a Vincent Cassel, quand même.
Oh.
Non mais ça, c'est vrai que le sujet est intéressant, les ravages du succès, et puis aussi cette rage que tout le monde a actuellement de devenir artiste, tout le monde veut créer quelque chose, il pourrait y avoir un petit quelque chose de drôle là-dessus, et puis c'est tellement mal fait, et alors on sent que Vincent Cassel, il s'est dit, bon, ça fait longtemps que je n'avais pas joué à un con, moi je vais jouer à un con, il joue à un con, voilà.
Et il a des problèmes d'argent là pour
l'instant. Je suppose, et Florence Foresti, c'est, je vais jouer la méchante, et alors elle est Autant François Damiens, je suis d'accord avec vous, il s'en sort, mais elle, c'est pas bien ce qu'elle fait là. Enfin, c'est pas bien.
Je sais pas pourquoi Eric a refusé d'y aller.
La daronne m'avait suffi.
Le bonheur des uns de Daniel Cohen. Voilà, adolescente. Un documentaire et film inter d'ailleurs de Sébastien Lifshitz, celui qui avait réalisé notamment Les Invisibles. Pendant 2h15, on suit l'histoire, somme toute assez banale, d'une amitié entre deux ados très différentes mais inséparables, Emma et Anaïs, que le réalisateur a filmé depuis leurs 13 ans jusqu'à leur majorité, c'est-à-dire de la quatrième à la terminale, soit pendant 5 ans, saison après saison, dans la ville de Brive. Au début, enfin, on se dit, je me suis dit que j'allais m'emmerder. Et puis, très vite, on devient mais totalement addict. C'est-à-dire que tout l'art de ce cinéaste, c'est de nous faire entrer en scope dans la vie quotidienne, voire intime, d'Emma. Alors elle est brillante en classe, fille unique d'ailleurs d'un milieu favorisé, mais avec un père toujours absent. Et puis Anaïs, en échec scolaire, venue d'un milieu très modeste, avec un frère handicapé et une mère dépressive. On les voit peu à peu devenir des jeunes femmes, chacune avec un avenir et des rêves différents, sans que jamais on ait l'impression qu'elles jouent devant la caméra un rôle qu'on aurait écrit pour elles. Et puis c'est aussi le portrait de la France de ces 5 années-là, une France blessée à mort par les attentats, où bientôt Macron sera élu président. Ne me parlez pas, parce que ça j'ai lu partout, de Boyhood, mais c'est vrai qu'on y pense de temps en temps. Sachez quand même que ce film-là, de 2h15, avait à l'origine 500 heures de rush. 500 heures de rush. Ah, est-ce que tu l'as vu celui-là, Eric ?
Oui, j'aimerais bien le revoir, mais le coup des 500 heures de rush explique la qualité des 2h15 restants.
Absolument.
Parce que on sent la confiance, le fait que Absolument. Tous ces gens filmés ont complètement oublié la caméra. C'est sidérant. Et on a raison aussi de le comparer à Boyhood, parce que c'est Boyhood dans la réalité. Et dans cette ville de province, Brive-la-Gaillarde, où on voit le temps passer avec les événements, l'actualité.
Boyhood, je rappelle quand même que Linklater avait suivi une famille pendant 12 ans.
Oui, mais avec des vrais acteurs qu'on voyait vieillir, etc. Et là, on voit ces deux gamines grandir, là. Et on a sous les yeux, mais de façon sidérante, cet âge où on a l'impression que personne ne vous ressemble assez pour vous comprendre, même votre meilleure amie, parce qu'il y a des moments où elles sont un peu perdues toutes les deux, et elles sont le yin et le yang. Il y en a une qui veut être actrice, l'autre qui sera infirmière, aide-soignante, et on voit la vraie vie, pour une fois. On voit le travail, on voit l'école, on voit les parents, on voit l'incompréhension entre les générations, on voit le temps qui passe, les saisons, les baignades dans le plan d'eau, les fêtes foraines, le 14 juillet, Noël... Et pas une seule fois, alors que ça se passe à Brive, il n'est question de la foire du livre. On voit l'endroit où ça se déroule d'habitude, mais il n'y a rien. C'est là qu'on se rend compte que les livres ne doivent pas compter du tout pour ces deux gamines, même si l'une d'elles s'appelle Emma, peut-être en référence à Bovary. Non, le film est très très réussi. Et ce qui est marrant aussi, c'est que malgré leur âge, elles sont déjà nostalgiques de ce qui leur est arrivé. C'est ça qui est très curieux et très beau. Et j'espère, moi, que cette expérience qu'elles ont vécue durant ces 5 ans les aideront à ne pas devenir comme les autres, ou en tout cas, pas tout à fait.
Pierre.
Moi, j'avais très, très peur, parce que moi, je suis pas un fan de Boyhood. Justement, j'avais un peu peur qu'il tombe dans le même piège à force de suivre comme ça les mêmes personnages pendant quelques années. Et je trouve que Lifshitz, tu as rappelé les films qui sont magnifiques, Les Invisibles et Bambi aussi, qui étaient très bien.
Aussi.
Et là, ce qui est formidable, c'est que il arrive au bout d'une demi-heure à peu près à rendre ces personnages totalement romanesques. C'est-à-dire qu'à la fin, elles deviennent presque des amies, mais de films romanesques presque hollywoodiens, comme on voyait dans les, je sais pas, Riches et Célèbres, comme ça, où les gens, brusquement, ont passé leur adolescence ensemble.
À la fin, quand l'une dit, je vais aller à Paris et l'autre, je vais aller à Limoges, on a envie de savoir ce qui va se passer.
Mais voilà.
Non,
mais
c'est
ça.
On a envie de les suivre.
Ça devient ce film qui est vraiment fondé sur la vie, évidemment, devient une fiction absolument formidable avec des personnages qui évoluent. L'une devient presque la mère de ses parents qu'elle conseille. Enfin, il y a une espèce d'humanité qui passe. Et en effet, tu as tout à fait raison. À la fin, il y a presque une nostalgie devant la génération qui arrive. Déjà, elles sont toutes jeunes. Et il y a déjà la nouvelle génération qui arrive en disant, ah, ben, t'as vu, ils avaient le téléphone de mon temps. Ils n'en avaient pas tous les téléphones comme ça. Je trouve que c'est un cycle de la vie qu'il a réussi à faire en 2h15. Et là, c'est vraiment formidable.
Xavier.
Je pense que la grande différence avec Boyhood, qui n'est pas un très bon film, de toute manière, je suis entièrement d'accord avec Pierre, c'est la mise en scène, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi un format qu'on utilise habituellement
pour le
documentaire. Il a pris un scope. C'est Depardon qui disait que le scope, c'était le format des westerns. Et il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que Au contraire de Richard Linklater qui n'inscrivait ses personnages dans aucun contexte, dans aucun espace social, à part celui peut-être de la famille, là, vraiment, ce que fait Sébastien Lipschitz, mais ce qu'il a toujours fait dans ses documentaires et dans ses fictions, c'est que grâce au scope, il fait exister des espaces autour de ces deux filles, qui sont des espaces de vie, qui sont le milieu scolaire, qui sont la famille, qui sont tout ce qu'elles vont faire aussi plus tard, qui sont aussi l'espace sociétal, c'est-à-dire la France pendant 5 ans, ce qu'avait été incapable de faire Linklater, c'est-à-dire que là, on voit les attentats, la peur, la manière dont elles s'engueulent avec leurs parents en disant non, pas d'amalgame, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, donc elles ont déjà un libre arbitre, elles ont déjà quelque chose, une vraie préscience, mais elles n'ont déjà beaucoup plus, pas beaucoup d'innocence, elles ont déjà quand même une conscience de ce qui les entoure, de ce qui les attend. Et c'est vraiment, je pense, grâce à la mise en scène, des plans fixes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas comme dans des reportages très réactifs à ce qui se passe, mais qui sont pensées pour qu'il y ait un cadre de vie, pour qu'il y ait un cadre autour des personnages et le format du scope, ça donne quelque chose, effectivement, qui peut apporter du romanesque à la matière documentaire. Et puis, il y a deux personnages. C'est-à-dire que c'est pas une adolescente, ce sont deux adolescentes complémentaires, différentes, fusionnelles, et à elles deux, elles ne racontent pas tout, mais elles racontent beaucoup plus de choses que s'il n'y avait eu qu'un seul motif à l'intérieur du film. C'est vraiment un film magnifique.
Sophie.
Oui, je suis d'accord, c'est un film magnifique. En effet, ce sont, elles deviennent des personnages et il faut aussi reconnaître qu'il y a un travail de montage qui est absolument extraordinaire, de mise en scène, bien sûr, de montage. Il arrive à saisir quelque chose qui est très peu montré au cinéma et qui, moi, m'a frappé, qui est le rapport, notamment, entre une mère et sa fille. Enfin, des deux côtés, d'ailleurs. Autant Anaïs avec sa mère, qui est cette femme désemparée,
très,
mais hyper
mais
émouvante.
Mais très envahissante aussi, hein.
Non, je parle de Anaïs.
Anaïs, ah,
qui est très désemparée et qui est vraiment très, très poignante, cette femme, et qui se fait rembarrer par sa fille. Et de l'autre côté, on a effectivement une mère qui est très autoritaire face à Emma, qui d'ailleurs l'appelle sans arrêt « ma fille », comme si elle ne lui autorisait qu'à être sa fille. Elle ne lui dit jamais « Emma », elle lui dit « ma fille » sans arrêt. Et elle se fait rembarrer aussi par la Emma en question. C'est hilarant. Je suis désolée de réemployer ce terme, mais c'est vraiment très très drôle. Et en même temps, c'est d'une cruauté, d'une violence. Il arrive à saisir la violence des mots entre une mère et sa fille. Et je trouve
entre une daronne et sa fille.
Et ça fait partie de l'adolescence, cette violence-là. C'est-à-dire qu'on passe de la haine à l'amour, et de l'amour à la haine en une seconde. Et c'est vraiment très très beau, avec la mélancolie aussi qui est attachée au film.
Ça dure 2h15, mais vraiment ça les vaut. C'est Adolescente, le documentaire de Sébastien Lipschitz, et on termine cette émission un peu rapidement, malheureusement, avec cette version restaurée, sortie le 16 septembre, de Total Recall, le film de SF de Paul Verhoeven, qui date de 90, avec Arnold Schwarzenegger et Sharon Stone. C'est quand même un couple inimaginable, hein. Tiré de la nouvelle de Philippe K. Dick, Souvenir à vendre, on est en 48, je ne vais pas tout vous raconter, mais Doug Quaid, c'est donc Schwarzenegger, rêve chaque nuit qu'il est sur la planète Mars à la recherche de la belle Mélina, qui est jouée par Rachel Ticotin. Sa femme, c'est donc Laurie Sharon Stone, s'efforce de dissiper ce fantasme, et pour faire cesser ses visions, il décide de faire appel à la société Recall, qui propose à ses clients des implants de souvenirs virtuels. Je n'en dis pas plus. Sachez simplement que Ronnie Cox joue Vilos Quaggan, qui régnait en tyran sur cette planète, et que Schwarzenegger va donc s'envoler pour Mars. Sophie.
Pardon, je ne l'ai pas revu.
Ah, tu ne l'as pas revu?
Non, mais ce dont je me souviens, c'est que j'étais plutôt Terminator, moi, mais c'est tout ce que je peux dire.
Comme je ne l'ai pas revu intégralement, j'ai, au bout de 3 quarts d'heure, moi, j'ai craqué un peu. Mais bon, Xavier.
Ça a pris un indéniable coup de vieux, je ne vais pas te dire.
Tu reconnais quand même.
Oui, bien sûr que je reconnais. Néanmoins, moi, il y a deux choses que je défendrai vraiment dans le film de Verhoeven. Non, mais ce que Verhoeven fait d'un blockbuster de Schwarzy en 90, c'est-à-dire qu'à l'époque, Schwarzy, il remplit les salles quand même. C'est le héros burné, c'est le héros viril, c'est le héros infaillible. Et là, Verhoeven passe son temps à demander aux filles de le frapper aux couilles. Mais constamment. C'est-à-dire, Charleston lui en donne quand même une plâtrée pendant le film. C'est-à-dire, allez-y, putain, cette espèce d'imbécile là, baraqué, complètement stupide, qui joue comme un pied. On a l'impression que Verhoeven se défoule par l'intermédiaire des héroïnes sur le personnage. Donc déjà, l'émasculation du héros hyper viril de l'Amérique des années 90, moi, ça me fait déjà plutôt rire. Après, je trouve que autant le truc sur le rêve, sur la réalité virtuelle, sur ça fonctionne pas très bien, c'est pas très bien écrit. En revanche, le thème de Philippe K. Dick, qui est cette frontière entre résistants et terroristes, on la retrouve vraiment plutôt bien circonscrite dans ce film-là. Ils sont désignés comme des terroristes, mais ils sont des résistants aussi pour une certaine partie de la population martienne. Et là, je trouve que le film est assez réussi.
Eric ?
C'est une gigantesque scène de ménage intergalactique, parce que lui, il veut aller sur Mars, et elle préfère Saturne, alors ça va très mal tourner, tout ça. Et Sharon Stone n'était pas encore une star à l'époque, parce qu'elle n'avait pas décroisé ses jambes dans un commissariat. Et Schwarzenegger est aussi inexpressif que dans Terminator, ce qui n'est pas peu dire. Et on apprend une chose très intéressante, c'est que pour échapper au radar, il faut se nouer une serpillière en turban autour de la tête.
C'est très drôle, ça.
Non, le film est laid, bête, de mauvais goût, les voitures du futur...
Tu m'assures.
L'air d'être des trabans. Et on y comprend pratiquement aussi peu que dans Tenet, avec ses histoires de mémoire sensorielle. Et comme Schwarzenegger, on est très vite victime d'une embolie schizophrénique.
Je suis d'accord.
Pierre,
tu l'as revu intégralement ou pas?
Oui, absolument. Oui. C'est un tout petit peu moins prétentieux que Tenet, quand même.
Bah, c'est pas difficile. Hein.
Oui, non, c'est pas difficile. Mais il faut quand même le dire.
C'est surtout beaucoup plus clair.
C'est beaucoup plus clair. Oui, encore que l'autre est compliqué sans...
Si tu n'as pas trouvé du turbinium, tu comprends pas.
On va pas revenir. Vous avez très bien parlé à la dernière émission de Tenet. Non, ça a vieilli, c'est sûr. Mais je suis même totalement comme Xavier, c'est-à-dire que ce que je trouve drôle, c'est la façon dont Schwarzenegger se plie à l'exercice, et je crois que c'est totalement volontaire. Il y avait une belle connivence, entre eux, et donc c'est alors bon, non seulement il prend dans l'entrejambe, tout le monde se livre à cet exercice douloureux, il en reçoit 4 ou 5 par Sharon Stone, par le méchant, on lui broie un bras, on lui enlève une par les narines, un petit peu comme les tests là qu'on fait actuellement. On lui enlève des espèces de puces comme ça qu'il a derrière. Donc le malheureux et voilà. Donc voir Schwarzenegger se faire maltraiter de la sorte est plutôt rigolo. C'est quand même un tout petit peu embêtant.
Il reste un mystère. Pourquoi tout d'un coup ressortir ce film remasterisé comme si c'était un
parce que Verhoeven est devenu un auteur culte.
Oui. Non.
Si. Mais bien sûr que oui.
Ah oui.
C'était un auteur de nanar qui aujourd'hui est un auteur cahier du cinéma.
Showgirl, c'est devenu un film culte.
Ils l'ont réédité en DVD.
Bah, vivement qu'on ressorte Starship Troopers, qui était absolument formidable,
Troopers,
méchant,
un film culte,
qui était vraiment politique. Là, franchement, on pourrait avoir un vrai débat sur Verhoeven.
Total Recall, donc ce film ressorti le 16 septembre de Paul Verhoeven. Allez, on a tout à fait le temps de conseiller des films, voire des DVD, des VOD, des restaurants à Nancy, enfin ce que vous voulez. Et on va commencer avec Sophie.
Alors c'est un documentaire qui s'appelle Honeyland. Le sous-titre c'est La femme aux abeilles. C'est un film qui se passe en Macédoine. Un documentaire signé Ljubomir Stefanov et Tamara Kotezska. Si j'ai bien prononcé, je ne sais pas. C'est un film absolument magnifique sur une femme qui vit dans le nord de la Macédoine avec sa vieille mère qui est paralysée et qui n'y voit plus.
Ça donne
plus
pas envie
bien.
Là. Il faut que tu me donnes.
Je sais. Mais
il y a des moments hilarants.
Mais c'est pas du tout. Alors, je dois reconnaître que c'est pas un film hilarant du tout, mais c'est un film très très étonnant car c'est encore une fois c'est un documentaire sur cette femme donc qui à main nue élève des abeilles et s'occupe de ses ruches, des ruches dont l'habitat naturel est la roche, ce que je ne savais pas et que j'ai appris. Donc elle grimpe dans les falaises, dans un paysage absolument somptueux mais très très dangereux et comme si elle avait fait ça toute sa vie, ce qu'elle a fait d'ailleurs, de manière ancestrale, elle continue à élever ses abeilles, mais en respectant le fait que les abeilles, il ne faut pas leur enlever tout le miel, qu'il faut leur en laisser et en partageant avec les abeilles, ce qui fait que tout le monde vit en bonne intelligence jusqu'au moment où arrive un type qui veut aussi élever des abeilles et qui évidemment ne fait pas la même chose qu'elle. Tout ça est un documentaire, mais alors ils sont arrivés pour la filmer pendant 3 mois et je crois qu'ils sont restés 3 ans à la filmer tellement c'était fascinant de voir cette femme qui vit vraiment dans un autre, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui va de temps en temps à la ville vendre ses pots de miel, qui achète d'ailleurs des teintures et qui se livre à des acrobaties incroyables pour se faire des teintures parce qu'elle n'a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien chez elle, elle vit vraiment dans une maison délabrée, mais c'est absolument fascinant. C'est un film que je recommande parce qu'il est magnifique.
Tu redonnes le titre ?
Honeyland, la femme aux abeilles.
Le conseil de Xavier.
Un petit hommage à Jerry Mansell, le cinéaste tchèque qui nous a quittés il y a une dizaine de jours, que moi j'aimais beaucoup, qui vraiment est une des grandes figures de cette nouvelle vague tchèque que l'on a vue arriver dans les années 60. Voilà, il nous a quittés un peu dans l'indifférence générale parce que les gens avaient beaucoup oublié cet auteur pour lequel moi j'ai une vraie tendresse. Et rappeler qu'en France, on peut voir certains de ses films en DVD, c'est chez Malavida, qui sont 3 films en plus adaptés de son comparse, de son confrère, qui était Bohumil Hrabal, qu'il a régulièrement porté à l'écran. Donc vous pouvez voir chez Malavida, Train étroitement surveillé, Alouette, un fil à la patte, et La blonde émoustillante, et vous retrouverez tout l'esprit caustique romantique, libertaire, joyeux, ironique de cet auteur, de cette époque. Et en plus, formellement, c'est des films extrêmement intéressants. On a parlé de Tati, à mon avis, de manière un tout petit peu décalée, tout à l'heure, en rappelant ce que vous aviez dit il y a 15 jours sur un autre film. Et ben là, il y a vraiment quelque chose de Tati, il y a vraiment quelque chose de graphique à la mise en scène. C'est absolument magnifique, avec une humanité, avec quelque chose de bouleversant, des personnages très attachants. Donc, redécouvrez Jerry Mansell, parce que c'est injustement un auteur oublié.
Le conseil d'Éric.
La réédition en DVD d'un film de 1976, Les Révoltés de l'an 2000, un film espagnol de Narciso Ibáñez Serrador.
Qu'est-ce que c'est bien, ça.
Et je ne connaissais pas du tout. C'est un film d'épouvante qui se passe dans une station balnéaire en Espagne où débarque un couple de deux Britanniques et le mari, qui est un grand dépendeur d'andouille, il a moustache avec des pattes d'éléphant, dit à sa femme, on va aller dans l'île en face que je connais, qui est formidable. Et ils arrivent là-bas et c'est le désert. L'hôtel est vide, au café ils sont obligés de se servir eux-mêmes, et on découvre que les enfants de l'île tuent tous les adultes. Et c'est terrifiant, il y a un malaise intégral avec cette chaleur, cette lumière qui contraste avec le propos du film, et c'est un des films les plus dérangeants que j'ai vu dans ma vie. C'est un mélange de Sa Majesté des Mouches et du Village des Damnés. C'est un truc incroyable, poisseux, glauque, et qui vous fait l'effet d'un cauchemar réveillé.
Bah déjà, ce que tu viens de raconter, ça jette un froid ici à l'Opéra de Nancy. Le conseil de Pierrot.
Alors très rapidement, comme j'étais pas d'accord avec Sophie ce soir, je voudrais lui dire à quel point j'étais d'accord avec le conseil qu'elle avait donné à la dernière émission. C'est un film qui s'appelle « Dans un jardin qu'on dirait éternel » de Tatsushi Omori. Et que je suis tout à fait d'accord avec elle. Je trouve que c'est un film formidable. Et puis, je voudrais recommander.
Tu es d'accord avec moi, hein, Pierre.
Absolument. Et je voudrais recommander un livre sur une comédienne que j'adore, qui est pour moi une des plus grandes comédiennes du cinéma français, qui s'appelle Danielle Darrieux. Il y a eu des livres sur elle déjà depuis sa mort il y a 2 ans. Elle est morte centenaire. Mais qui la présentait toujours comme quelqu'un de léger, de futile, etc. Et là, il y a un bouquin qui vient de sortir aux Presses universitaires de Bordeaux où on voit pour la première fois, enfin une rare fois, son importance, l'importance qu'elle a représentée dans le cinéma français, et puis on explique cette
personne n'en doute de là.
Ouais, mais je veux dire que c'est de montrer formidablement à quel point c'était une actrice unique en France dans sa façon de pouvoir passer d'une fraction de seconde de la légèreté à la gravité. Et pour s'en convaincre, il y a une préface de Bertrand Tavernier. Rien que pour ça, il faut lire le livre, où il parle de la musicalité, où il analyse le jeu de Darrieux sur sa musicalité. Et c'est donc tout à fait formidable. Ça s'appelle « Danielle Darrieux ou la traversée d'un siècle » de Gwenaëlle Legras et Geneviève Cellier aux Presses universitaires de Bordeaux.
Oui, parce que « Traversée d'un siècle », elle a été à l'écran pendant toute sa vie, quasiment.
Toute sa vie.
C'est assez exceptionnel.
Bon, « Madame II » de Max Ophuls, notamment, et « Une chambre en ville » de Jacques Deby.
Et partenaire magnifique de Gérard Philippe. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Sophie Avon, Xavier Leherpeur, Éric Nehoff et Pierre Murat, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir, à la technique, à l'Opéra de Nancy, il y avait, et je les remercie, Sébastien Huel, Frédéric Kérou, Thomas Robin, Charles Bouticourt, Guillaume Rialan, pour une réalisation qui était signée Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il sera parisien puisqu'il aura lieu le jeudi 24 septembre à partir de 20h au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, pour 2 émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films. Merci encore de nous avoir accueillis si chaleureusement à Nancy et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter évidemment. Merci.